Bienvenue dans le podcast du Journal de l'Agence. Je suis Anne-Sandrine Di Girolamo. Ensemble, nous rencontrons des personnalités du monde de l'immobilier au parcours inordinaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Sébastien Delafont, fondateur de meilleursagents.com, créé en 2008. Il est aussi l'auteur du livre « On voit bien que vous n'y connaissez rien » publié aux éditions Erol. Sébastien Delafont, c'est un sacré caractère, un entrepreneur de l'immobilier qui ne laisse personne indifférent. Bonjour Sébastien Delafont.
Bonjour Anne-Sandrine.
Avant de créer meilleursagents.com, vous avez mené plusieurs vies professionnelles. Quel métier avez-vous donc exercé? Est-ce que ces vies précédentes vous ont aidé à mieux concevoir votre site meilleursagents.com?
Alors c'est vrai, je ne suis pas tout à fait un chat. J'ai eu 3 vies professionnelles, pas 7. La première, j'ai été banquier d'affaires en Europe et aux États-Unis. Et petit à petit, comme banquier, je me suis rapproché du monde de la tech et des entrepreneurs. Puis j'ai eu une deuxième vie comme fondateur d'un fonds de capital risque qui était basé à Londres et qui investissait dans des entreprises de technologie, donc un fonds d'environ 180 millions d'euros. Et puis ma troisième vie, qui peut-être n'est pas la dernière, une vie d'entrepreneur en France, où j'ai monté avec d'autres meilleurs agents.
Est-ce que ça vous a aidé à mieux concevoir votre site?
Oui, Anne-Sandrine, bien sûr, ces vies précédentes m'ont aidé pour le développement de meilleurs agents, parce que j'avais été exposé comme financier à beaucoup de secteurs d'activité, et comme investisseur, je savais ce que c'était que de gérer un conseil d'administration, des investisseurs, accompagner des entrepreneurs. Donc même si j'étais comme entrepreneur de l'autre côté, comprendre ce qui se passait dans l'envers du décor a été effectivement très utile.
Est-ce qu'on peut dire que votre parcours est inordinaire?
Je pense que mon parcours est inordinaire. Enfin, chaque parcours est effectivement unique. En ce qui me concerne, c'était relativement inattendu de commencer un business dans l'Internet, dans l'immobilier, à 41 ans, après avoir été et banquier et investisseur. J'ai un peu fait le film à l'envers. Souvent, on devient investisseur après avoir été entrepreneur. Et puis commencer un business de zéro à 41 ans dans un secteur qu'on ne connaît pas, effectivement, c'est pas nécessairement ce qu'on attend.
Mais 40 ans, c'est jeune de nos jours.
C'est très jeune, c'est vrai, j'y retournerai volontiers. C'est jeune, et vous avez raison. Maintenant, on est parfois, quand on a 40 ans, déjà dans une logique familiale. C'était mon cas, avec 2 enfants, une épouse qui ne travaillait pas. On peut se trouver dans une situation qui fait qu'on n'est pas forcément tout à fait libre de ses mouvements. Ma chance, ça a été d'avoir, et dans ma tête et sur le plan financier, libre d'engager quelque chose de tout à fait nouveau.
Et selon vous, qu'est-ce que c'est qu'un parcours professionnel inordinaire, ou plutôt un parcours entrepreneurial inordinaire?
Il faut répondre aux deux questions, parce que un parcours entrepreneurial, en fait, c'est un moment où on s'interroge, on va au cœur de ses motivations, et on est effectivement à un moment en capacité où on a l'envie, au fond, de suivre son instinct, de suivre ses envies. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas sur un plan professionnel, mais l'entrepreneur, à un moment, décide de prendre son destin en main. Et c'est ça que je trouve très intéressant. On n'en a pas toujours la possibilité, on n'en a pas toujours l'envie, parce que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Mais je pense que c'est cette phase de sa vie qu'on peut connaître où on décide de prendre les choses en main contre un certain nombre de petites voix qu'on peut entendre et qui peuvent vous dire ne pas y aller. Et ce moment-là, de transgression me paraît très important.
Il n'y aurait donc pas de modèle entrepreneurial ou de parcours modèle?
Il y a peut-être des parcours modèles, j'en sais rien. Effectivement, je vois des jeunes gens aujourd'hui qui sortent d'une école de commerce. Moi, je suis sorti d'HEC en 89, donc c'était vraiment il y a très très longtemps. On ne pensait pas monter à sa boîte. Aujourd'hui, il y a des cohortes entières de jeunes gens qui sortent d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs ou d'ailleurs, et qui ont effectivement un parcours en tête. Soit ils attaquent tout de suite la création d'une entreprise, soit je sais qu'ils vont passer quelques années dans un cabinet de consulting, ou dans une banque d'affaires, ou dans une start-up déjà créée pour apprendre. Mais ils ont déjà en tête le fait de monter leur entreprise 3, 4, 5 ans plus tard, de lever des fonds, etc. Donc effectivement, ces parcours sont peut-être plus fléchés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient auparavant.
Quelle leçon retenez-vous de votre expérience de la création de meilleurs agents?
J'en retire 1000 enseignements et surtout la joie profonde de m'être lancé. Alors moi, j'ai monté Meilleurs Agents pour un certain nombre de raisons, mais la principale, c'est que je souhaitais vivre une aventure humaine et je souhaitais particulièrement prouver et me prouver qu'on pouvait gérer une boîte en suivant ce qu'on appelle la stratégie du dauphin, c'est-à-dire une stratégie de coopération, y compris dans un environnement qui n'était pas forcément un environnement très simple, un environnement très compétitif comme celui de l'immobilier. Et on a prouvé que c'était possible. Et ça, pour moi, ça a été l'enseignement le plus fort. Non seulement avec mes associés, donc Julien Chessial, Jordan Sagnal, Pascal Boulanger, qui n'étaient pas des gens que je connaissais avant. Et donc, on a créé des rapports d'associés, mais même des rapports amicaux très forts, presque familiaux. Et au-delà, à l'échelle de l'entreprise, je pense qu'on a prouvé qu'on pouvait créer une entreprise qui fonctionnait sur des principes très sains, de relations gagnant-gagnant, et faire fonctionner une entreprise de manière très efficace. Ça, pour moi, c'est l'enseignement principal que j'en retiens.
Et si des choses étaient à refaire ?
Je ne fonctionne pas comme ça, Anne-Sandrine. Moi, je ne revisite pas le passé. C'est fait. Je ne suis pas quelqu'un qui nourrit des regrets. Je ne revisite pas ce que j'ai déjà fait.
Si vous ne revisitez pas ce que vous avez déjà fait, pour autant, vous avez vécu des moments forts. Et les émotions font partie de tout parcours d'entrepreneur. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez ressenti de la peur, de la douleur, de la joie aussi ?
Ah oui, j'ai traversé mille émotions. On a commencé en 2008 et je suis sorti de l'entreprise 12 ans plus tard. On a connu des passages très difficiles, des moments d'angoisse. Souvent, on a pensé qu'on n'allait pas y arriver. Donc, monter une boîte Internet dans l'immobilier entre 2008 et 2020, c'est connaître des crises, notamment en 2008, avec une crise financière et immobilière assez profonde. 2011, deuxième crise immobilière. Et puis un parcours très chaotique sur le plan du modèle économique de l'entreprise, de sa croissance. Ça a été très compliqué. On a eu du mal à se faire comprendre. Je l'ai raconté dans un livre qui s'appelle « On voit bien que vous n'y connaissez rien ». On explique tout ça dans le détail, en expliquant de manière, très candide les difficultés qu'on a dû surmonter sur absolument tous les plans. Donc, je dirais que des émotions, il y en a eu plein, mais la plus importante pour moi, c'est celle, d'avoir foi en son projet. Et tant qu'on est absolument convaincu du bien fondé de son idée, et en l'espèce, c'est qu'on avait vraiment cette envie d'apporter au marché, d'apporter aux acheteurs et aux vendeurs des choses qui nous paraissaient manquer sur ce marché, c'est-à-dire la transparence sur les prix et un fléchage pour aller vers les meilleurs professionnels pour eux. Et ça, on était convaincus que c'était nécessaire dans le marché. Et donc, ça nous a permis, donc il y avait ça, et puis la philosophie du business et cette très grande cohésion qu'il y avait entre nous, les associés fondateurs et l'équipe qu'on a agrégée autour de nous. Et ça, ça nous a donné une très, très grande force pour surmonter toutes les difficultés qu'on a connues.
On peut aussi parler de versatilité, d'adaptabilité, de flexibilité. Vous avez changé à plusieurs reprises de modèle économique.
Oui, mais ça a été absolument essentiel. Meilleurs Agents est, presque connu pour avoir été effectivement très plastique dans son modèle économique. On a commencé avec une rémunération au succès en apportant des leads vendeurs à des agents immobiliers et 10 ans ou 12 ans plus tard, notre modèle économique, ce sont des revenus d'abonnement, de visibilité, etc. Donc beaucoup plus prévisible, beaucoup plus facile. Mais on est passé par différentes étapes, sans regret d'ailleurs, parce qu'on n'aurait pas pu imposer notre modèle final dès le départ. Mais ça a été douloureux, compliqué. Et si on n'avait pas eu, cette flexibilité, cette adaptabilité, je ne serais pas là pour vous parler aujourd'hui, c'est sûr.
On parle parfois de Meilleurs Agents comme étant un modèle de l'entreprise disruptive. Qu'est-ce qu'on fait des résistances qu'on rencontre ?
On a connu effectivement beaucoup de résistances. Tous les marchés établis et complexes comme l'immobilier, offrent des résistances à des acteurs comme nous. On a fait face à quand même des résistances peut-être plus costaudes que dans d'autres secteurs parce que non seulement les gens étaient très sceptiques sur notre capacité à apporter cette transparence sur les prix, cette transparence sur les pros, mais parfois ils ont été durs avec nous.
C'est-à-dire ?
Il est arrivé même qu'on nous menace, qu'on nous fasse comprendre qu'on n'était pas bienvenus du tout et que ça allait mal se passer pour nous si on avançait. Notamment quand on a commencé à faire la transparence sur les prix afficher des prix gratuitement, etc., ben on cassait certaines rentes de situation. Il y a des professionnels qui pensaient que c'était vraiment leur attribut exclusif que de fournir des informations de prix et que ben c'était pas souhaitable qu'un acteur nouveau débarque avec ça. C'était pas souhaitable non plus qu'on décrète comme ça que certains acteurs du marché étaient meilleurs que d'autres. Je comprends hein, qu'on a beaucoup... On a beaucoup dérangé. Alors, qu'est-ce qu'on en a fait ? Bon, ça a pu nous faire peur par moments, mais pas beaucoup plus que ça, parce que, encore
amusé
une fois...
peut-être ?
Comment ?
Amusé, peut-être ?
Ah non, je dirais pas amusé. Non, ça ne m'a jamais vraiment amusé. Non. Non, ça ne m'a pas amusé. En revanche, j'en reviens à cette foi qu'on avait sur l'utilité de notre démarche pour le consommateur final. Moi, j'avais connu, et comme d'autres personnes autour de moi, certains déboires dans la réalisation de mes projets immobiliers, et je considérais que ce qu'on cherchait à apporter était vraiment nécessaire, vraiment utile. Et ça donne du courage. Ça donne du courage. Et puis, il y a eu aussi pas mal d'agents immobiliers, parce que je dis qu'on a connu des résistances, voire même des menaces. Il y en avait aussi beaucoup qui ont été très sympas avec nous et qui ont compris avec nous au tout démarrage qu'effectivement, ce marché, il fallait le faire évoluer, que tout n'allait pas... Comme il le faudrait, et des agents nous ont aidés. Les notaires, même si ça a été compliqué de travailler avec eux, nous ont fait confiance. Donc c'était pas tout d'un bloc, tout noir. Puis on a nos investisseurs aussi qui nous ont suivis dans la durée. Parfois, tout n'a pas été rose, et je le raconte encore dans le bouquin, mais ils ont cru avec nous à notre démarche. Et puis on a été entouré d'énormément d'amis de tous secteurs. Je parle aussi des avocats spécialisés très forts ou d'Emmanuel François Eugène, publicitaire, de génie. On a eu autour de nous des gens qui nous ont donné des coups de main fantastiques parce qu'ils pensaient qu'au fond, on était un, pas des mauvais gars, et deux, que ce que nous faisions était utile. Ça, tout ça, ça vous donne du courage pour surmonter des obstacles.
L'objectif, c'est l'impact sur la société ou sur un environnement économique. Et c'est ça qui vous porte ?
Oui, mais je crois que l'entrepreneur... c'est quelqu'un qui veut changer le monde. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire de manière déraisonnable, ça ne veut pas dire changer la planète entière, mais il y a quelque chose autour de lui, autour d'elle, qui le dérange, qui la dérange ou qui n'est pas là, et il veut modifier ça. Il veut apporter une solution nouvelle, il veut apporter quelque chose qui n'existe pas. Il a cette ambition, peut-être un peu démesurée, un peu mégalomaniaque, mais c'est ça l'entrepreneur. Et je trouve que c'est un peu magique, c'est le créateur, mais le peintre... ou le sportif qui veut franchir un nouveau record, on a tous finalement ça en commun, de ne pas se satisfaire de ce qui existe. Et je trouve que c'est beau. Et puis en plus, quand on le fait à plusieurs, ça peut vraiment être magique.
Ne pas se satisfaire de ce qui existe, on va terminer ce bel entretien sur ces mots-là. Je vous remercie, Sébastien Delafond.
Merci Anne-Sandrine.